wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi, ce soir, Mathilde Serret, Joseph Gosnet, Olivier Lam, sur nos platines, Miss Anthropocène de Grimes, Man Alive de King Krul, Names of North and Woman de Lee Ranaldo et Raoul Refray Fernandez. Ouvrons cette émission, non pas par ce sommaire, mais par un hommage à Andrew Weatherall, DJ, producteur, musicien anglais dont on a appris la mort hier à l'âge de 56 ans. Bio, ça va être long, une bio express, vous sentez Olivier Lam?
Très rapidement, DJ est né à Windsor, pas très loin de Londres, qui est arrivé un peu dans la dance music à l'envers, si j'ose dire, notamment en tapant très fort avec le collectif dont il faisait partie, qui s'appelait Boyzone, qui éditait à l'époque un fanzine, qui parlait notamment de football, de mode, etc. Tapait très fort sur la révolution Acid House, qui était absolument énorme à l'époque, c'était la fin des années 80, et qui rapidement a imposé une sorte de purisme et totalement amoureux de la musique. Lui venait plutôt de la Northern Soul, du rock'n'roll, du punk, et il a amené une sensibilité unique, psychédélique, à la musique, d'abord par des remixes. Il a évidemment remixé les Happy Mondays de manière le morceau Alléluia avec Paul Oakenfold, qui était à l'époque un des fers de lance de l'acid house, et a rapidement ralenti le tempo et amené du gospel, enfin mille choses dans la house, et a complètement fait vriller et la musique électronique et le rock, puisqu'il rapidement il s'est mis à travailler avec des gens du rock, notamment Primal Scream, avec lequel il a produit le chef-d'œuvre Screamadelica en 1991. Voilà.
On va faire la suite, la transition vers Joseph Ghost sur ce que Weatherall a fait bouger, mais c'est même plus que bouger, a fichu en l'air d'une certaine façon.
En fait, le vrai moment d'Andrew Weatherall, c'est lorsqu'il prend un morceau de Primal Scream qui s'appelait I'm Losing More Than I'll Ever Have, qui est un extrait du deuxième album du groupe. L'album était un échec à la fois commercial et artistique. Et il y a ce morceau qui devait sortir en single, et Weatherall le prend et le remixe entièrement. Il garde juste une trame, un peu de piano. Il met tout ça en boucle, il rajoute des voix. Le groupe lui-même semble très 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 éloigné dans ce morceau. Et le morceau est baptisé, il s'appelle Loaded. Loaded voulant dire
chargé.
Et c'est là où il crée une vraie connexion entre le rock indé et ce qui se passait effectivement dans les clubs, c'est-à-dire la house et un peu de techno qui arrivait. Mais en fait, ce qu'il fait vraiment, c'est il met en scène, il crée un objet qui reflétait ce que lui vivait, c'est-à-dire ce qu'il vivait dans les clubs comme la Hacienda de Manchester, où effectivement il côtoyait des gens comme les Happy Mondays. Moi, j'ai interviewé Andrew Weatherall plusieurs fois, et notamment en 2000, où il m'a raconté qu'effectivement il passait du temps à la Hacienda avec les gens d'Happy Mondays, qui en fait étaient les dealers de la Hacienda, et lui-même dealait un peu d'acide, et il se coursait les uns les autres sur les autoroutes pour voir qui avait vendu, qui n'avait pas vendu. Donc il y avait un peu une ambiance un peu comme ça, très très droguée, et qui se reflète bien dans ces morceaux. Loaded en premier, et ensuite il fait un autre remix qui est un de ses grands chefs-d'œuvre des débuts, qui est le remix de My Bloody Valentine du morceau Soon, et il produit évidemment l'album Screamadelica, qui devient l'emblème de cette scène-là, de l'Angleterre du début des années 90.
Avant de poursuivre et de donner la parole à Mathilde Serret, écoutons quand même aussi un bon morceau du morceau de Two Lone Swordsmen, l'un des projets musicaux d'Andrew Weatherall, en compagnie ici de Kirsten Eastwood. Le titre, c'est No Flex. We'll be right back. pour cet extrait du morceau de Two Lone Swordsmen, pour dire, enfin, on va parler de pas mal de disques à suivre, pour dire que ça peut être simple, la musique, ou faussement simple, et terriblement efficace, Mathilde Serrel.
Bah, simple et terriblement complexe, parce qu'en fait, il y a une sorte de charnière du siècle avec Andrew Weatherall, puisque il y a un remix de New Order dont on n'a pas parlé, qui s'appelle World in Motion. Il y a son projet de techno-expérimental Sabres of Paradise. Et en fait, je crois que dans son travail, il va faire le lien donc avec cette New Wave et cette musique club dont on parlait à Manchester. Et puis, en même temps, la techno et l'esprit rave. Donc, c'est assez incroyable d'avoir réussi à encapsuler des énergies qui sont celles qui arrivent comme ça à la fin du XXe siècle et de les avoir rendues dans les remixes et l'univers du club tout en les gardant, je veux dire, un peu ensauvagées. C'est ça que je trouve absolument génial dans son travail, c'est d'avoir synthétisé la bascule de la New Wave à l'ouverture de l'immense champ électronique sans avoir ni aseptisé la chose, ni, on va dire, desservi cet univers de rêve qui documentait en effet dans son fanzine. Donc je trouve que c'est une capsule de cette charnière de la fin du siècle, Andrew Weatherall. Et on voit aussi que c'est la naissance de productions extrêmement feuilletées. Mmh. Et on l'entend là.
Joseph Gauss, un mot encore.
Moi, ce que je trouve assez génial dans ce qu'il fait, ce sont les allers-retours permanents, c'est-à-dire rien qu'au niveau de la production. Quand on voit au début, par exemple, les premiers morceaux, c'est vraiment typique de l'époque, c'est-à-dire c'est du sampling, on fait des boucles, on utilise les machines qui sont des sampleurs, et puis il n'hésite pas quelques années plus tard, mais assez rapidement, lui et Keith Stanishwood dans Two Lone Swordsmen sont parmi les premiers à dire on va juste faire des concerts et des albums avec uniquement des machines et des boîtes à rythme, alors que plus personne ne faisait ça. Et de même, quand il va un peu trop loin dans la house ou dans les remixes, d'un coup il sort une compilation avec uniquement du post-punk qu'il écoutait 20 ans auparavant. Donc les allers-retours sont très 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 riches chez lui. C'est ça qui en fait nous a toujours surpris.
Un mot encore pour finir, Olivier.
Oui, je reviens sur le terme d'ensauvager. C'était un sacré esprit, un rebelle. Il a refusé des ponts d'or tout le temps. Il a refusé de mixer à chaque fois, parce que c'était un DJ incroyable aussi, il faut le dire. Et il a refusé de devenir une superstar. Il trouvait ça absurde. Il a préféré vraiment tracer sa voie. Il est resté indépendant quasiment tout le temps. On va dire, les choses les plus commerciales qu'il a fait, c'est signer sur Warp, qui était un label indépendant. À part ça, il a tracé sa voie. Et surtout, j'aimerais juste lire une citation d'un bouquin du journaliste anglais Joe Muggs qui s'appelle Bass Meets Stops, qui est une histoire des sound systems, où il parle à Adrian Sherwood, donc de New Sound, pape du reggae anglais punk, et qui est un grand ami de Weatherall, et qui raconte que pourquoi Weatherall était son DJ préféré de tous les temps. Il dit, il a des oreilles incroyables, il pourrait mixer du rockabilly et de la house, puis de la house avec autre chose. Il est la classe incarnée, s'il le voulait, il pourrait être l'un de ses DJ superstars, mais il vaut mieux que tous ses trous du cul. Il préfère suivre sa voix plutôt que tuer la queue du diable pour trois fois rien. Voilà.
Un des plus beaux sets que j'ai vu, c'est Andrew Weatherall au Rex Club, donc club techno, qui jouait uniquement du reggae. Et c'est une des plus belles choses que j'ai vues.
Et c'est peut-être, au début, on va beaucoup en parler, cette rencontre entre le rock et l'électro qui va se faire sur le label DFA à New York au début des années 2000. Et en fait, c'est lui qui fait déjà la synthèse. Donc finalement, il anticipe cette espèce d'explosion des catégories musicales dont on prend conscience que 10 ans plus tard.
Alors, au niveau explosion des genres musicaux, sans transition, Mathilde Serrel. Vous aviez quelques mots à nous dire sur Graham Allwright. Alors, mort également, pas le même jour, mais à quelques heures d'écart d'Andrew Weatherall. C'est un chanteur français d'origine néo-zélandaise que les plus âgés comme moi connaissent, parce que quand on avait des parents baba, ils écoutaient forcément Graham Allwright, qui chantait en français des chanteurs tout à fait importants de la scène, le plus souvent américaine, Leonard Cohen, entre autres.
Oui, il y a des choses qui peuvent être absolument datées chez Graham Allwright. Si vous vous baladez un petit peu, vous essayez de réécouter, il y a ce côté un peu hippie aux pieds nus, des chansons qui vous vantent un petit peu le grand soir, qui sont pas forcément le jour de clarté. C'est la version Graham Allwright du grand soir, qui est une protest song de Peter, Paul et Marie. Il y a des versions francophones d'une petite comptine anglaise qui s'appelle All Talk Voice Train de Roger Miller, qui va donner ce fameux « Entends-tu les clochettes tintinabulées ?» Je chante pas très bien,
non, mais c'est bien.
On se souvient bien du phrasé. Donc ça, c'est Petit Garçon, c'est assez éclectique. Et il y a, à mon avis, toute une période que, dont vous pouvez vous passer, qui est la traduction en fait de Leonard Cohen. Moi, je crois que Suzanne, traduit par Graham Wright, ça ne fonctionne absolument pas. Quoi. Le sailor, empêcheur, n'a pas du tout la même dimension. Et puis, les arrangements sont similaires. Et il y a quelque chose de la traduction copycat. C'est un peu le cola versus le Coca-Cola, ouais, comme qu'on peut faire parfois. Donc ça, c'est moins intéressant. En revanche, je trouve que, par exemple, sur Malvina Reynolds, qui a fait cette chanson Petite Boîte, Little Boxes, je trouve que l'adaptation qu'il va porter...
Vous pouvez la chanter, là aussi.
Bah, petite boîte, nanana. Moi, je peux pas vous le faire. Non. Ça a été la musique, vous savez, d'une série qui s'appelait Weeds, entre autres, qui faisait que des versions de petite boîte à chaque début de générique. Et moi, il me semble que là, il y a un peu la synthèse de ce qui est intéressant chez Graham Wright, c'est-à-dire cette dimension humaniste, politique, hippie, la protest song engagée, puisque ça parle de gens qui vont s'enfermer dans des petits schémas et reproduire d'autres petits schémas pour leurs enfants. Et en même temps, d'une manière beaucoup moins caricatural que dans d'autres titres de Graham Wright. Donc, moi, c'est une figure sur le plan musical que je trouve pas absolument magnifiante, mais j'aime dans son parcours, j'aime certains aspects et surtout la continuité finalement de la pensée qui est assez humaniste. Il avait, je crois, aussi un festival.
Absolument.
En France, et il a tombé totalement amoureux d'une comédienne française. Il a travaillé dans des fermes hyper durement. Il raconte ça très bien dans À Voix Nue sur France Culture en 5 volets. Ça s'appelle Graham Wright, le passeur. Et il y a également un continent musique avec Mathieu Conquet que je vous recommande.
Bon, on clôt cette page qu'on aimerait chaque fois éviter, hein, quand même, cette page nécro qui est quand même un peu trop fréquente dans cette émission.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Et on ouvre, très en retard, à présent, le sommaire prévu de cette dispute avec Miss Anthropocène de Grimes chez 4AD. Sous ce pseudo se cache Claire Boucher, productrice, réalisatrice, auteure, compositrice, interprète canadienne, née en 88. Un premier album qui sortit en 2010, le suivant en 2011, le troisième en 2012. C'est le troisième qui a commencé à la faire connaître. 2015, c'était le quatrième album Art Angels, qui était déjà plus pop. Et le cinquième, dont on va parler ce soir, sera ce vendredi. Dans les bacs, 5 années entre 2 albums à notre époque, c'est tout de même assez long. Qu'en est-il ? Réponse avec nos critiques après avoir écouté Violence.
Thank you.
Grimes, nouvel album, Miss Anthropocène, un premier tour de table rapide pour recueillir votre sentiment sur cette, sur ce nouvel album, Mathilde Serrel.
Ma sorcière bien-aimée.
Olivier Lame.
Accélération avec un point d'exclamation.
D'accord, vous expliquerez votre typo dans un instant et votre ponctuation. Joseph Gosne.
Je suis très mitigé et un peu froid.
D'accord, mais on va prendre votre température, ça ira mieux. Mathilde Serrel, votre sorcière bien-aimée, donc développez un peu.
Alors, ma sorcière bien-aimée, non, parce qu'elle a toujours eu ce côté un peu mutante, ensorcelante, Grimes, depuis Oblivion. Je ne sais pas si vous avez ce titre où elle est apparue, où elle était comme ça, sur une sorte de dans les vestiaires de joueurs de football. Et il y avait ce côté gothique, médiéval, technoïde mélangé. C'était une recette incroyable et unique. Et puis après, il y a toute une partie dans cette petite sorcière du son qui va être un peu caricatural. C'est de l'époque de Grimes avec un producteur qui s'appelle Blood Diamond. Et là, on est dans une sorte de petite bande de Los Angeles aux cheveux colorés avec des scènes... des clips un peu caricaturaux, ça, c'est presque du pré-Game of Thrones. Il y a aussi une tendance à reprendre on va dire l'esthétique provocatrice de Madonna, mais sauce début du 21e siècle. Et c'est pas une période très intéressante. Il me semble qu'avec ce disque-là, elle revient à la Grimes qu'on a découvert au début, donc avec ce titre Oblivion. Elle est connue aussi pour être la compagne de ce grand techno-milliardaire qui est Elon Musk. Donc,
ah oui, j'ai découvert ça.
C'est l'ambivalence.
J'ignore tout de la vie des vedettes.
Non, mais c'est vrai que c'est l'ambivalence aussi de cet album qui est, sur certains titres, absolument, je trouve, délicat et qui retrouve les compositions de Grimes comme « Sorry V. Heifel Through the Earth » qui est le titre inaugural qui fait 6 minutes. Il y a la petite fée maléfique qui est là. Il y a le manifeste du futur. Il y a le mauvais génie de la machine. New Gods aussi, ça pourrait ressembler un peu à du James Blake par moment. Et puis il y a des titres très efficaces, on a écouté The Violence, mais il y a aussi My Name is Dark, entre autres. Moi, il me semble qu'elle est capable presque de singer un peu tous les visages de l'époque. Il y a une petite voix parfois, on dirait la chanteuse de Diane Wood aussi, elle se métamorphose comme ça. C'est une sorte de visage en mutation dans le disque, avec une partie un peu pub pour le futur, techno-geek, qui est parfois gênante, parce que un petit peu caricaturale. Puis quand on vous dit c'est le futur, on sait que c'est des gens en papier aluminium et que ça va pas se passer comme ça. Ouais,
donc
là, c'est faut imaginer que c'est un peu la même vente du futur et qu'a priori ça va pas forcément ressembler à ça. Mais je trouve que il faut, par exemple, entrer plusieurs fois dans le disque, et vous verrez qu'en remontant au premier titre après avoir tout traversé, ça va se redéployer et ça va apparaître beaucoup plus complexe que le premier effet pop qu'on peut avoir sur cette écoute.
Vous trouverez
de Miss Anthropocène.
Vous trouverez le mode d'emploi de Mathilde Serrel dans les pochettes du disque qui sera vendredi dans les bacs. Olivier Lame va devoir nous expliquer sa première impression.
Oui, c'est une référence à un recueil de c'est vrai en plus, d'articles philosophiques qui étaient parus au PUF il y a 2 ou 3 ans et qui rassemblaient en fait plusieurs articles de plusieurs textes en fait de la même mouvance qui est la mouvement dite accélérationniste qui a été fondée et pas un monde de fondation, mais c'est beaucoup de philosophes anglais dont Nick Land qui est un philosophe plutôt de droite qu'on dit néo-réac en fait, mais qui en
dans
gros
dans la ligne du professeur Lame.
Non, mais c'est intéressant parce que vous allez voir où.
Mais bien sûr, pour le coup, si l'émission n'est pas finie,
je pense que Grimes a lu une notice Wikipédia de l'accélérationnisme parce que, en gros, ça préconise qu'on accélère tout ce qui va mal, en gros, dans notre civilisation pour enfin dépasser le stade de l'effondrement et voir ce qu'il y aura après. Elle dit qu'elle, en gros, elle embrasse, elle veut entendre de la musique faite par des robots, elle en a marre d'entendre de la musique faite par des humains. D'ailleurs, elle s'est méchamment emplâtrée, engueulée avec une autre, elle a été prise à partie par une autre musicienne qui s'appelle Zola Jesus, qui en gros l'a traitée de voix incarnée du privilège fasciste de la Silicon Valley, ce qui est un peu toujours le cas des techno-positivistes, etc. Moi, ça m'intéresse quand c'est embrassé comme ça par une voix, on va dire, majoritaire. Il se trouve que Grimes, c'est quelqu'un qui fantasme des chansons avant de les écrire, et que là, le disque, c'est un peu n'importe quoi, avec quand même pas mal de talent mélodique, mais je trouve quand même que il y a une ambiance, c'est pas vraiment un album, c'est plutôt un ensemble de mood boards. Elle explore différentes façons, différentes obsessions, différentes, presque. Oui, obsession un peu bizarre, un peu fétichiste pour des objets musicaux qui a priori sont pas très intéressants, plus très intéressants comme Garbage ou à mon avis elle a écouté un truc assez affreux de la fin des années 90 qui s'appelait Babylon Zoo, des guitares métal. Ouais, non, mais je pense vraiment qu'elle fouille Internet.
Chez moi, tiens. Elle a écouté des vieux Oasis aussi, m'a semblé sur un titre.
Et Shania Twain et des choses comme ça, et du coup on est un peu dans son cerveau. C'est un peu n'importe quoi, et en même temps je trouve qu'à cette échelle là d'industrie, moi ça me déplaît pas complètement, enfin voilà.
Alors que ça laisse Joseph Ghost froid. Pourquoi Joseph?
Ça me laisse froid.
Vous avez dit,
c'est précis. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Donc disons que ça me laisse beaucoup à distance, parce que je trouve que c'est un disque qui essaye de vous emmener, de vous embarquer. Le morceau qu'on a entendu, c'est exactement ça. Ça essaie de vous faire danser.
Moi, ça marche. Hein.
Ben, moi, ça marche vraiment pas parce que. Parce que bon, alors déjà, il y a deux choses. Effectivement, pour rejoindre ce que disait Mathilde Serrel tout à l'heure, la première écoute est un peu, à mon sens, est vraiment vraiment hard. J'ai beaucoup de mal à rentrer. La deuxième est un peu plus, est un peu meilleure, notamment sur ce morceau d'ouverture qui pour le coup, est le meilleur et le plus réussi, le plus enthousiasmant.
C'est un petit peu long pour le diffuser ce soir, mais.
Mais qui a quand même quelque chose d'assez fort dans la mélodie, dans la
construction.
Tout à fait. Il y a quelque chose. Et ensuite, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un mélange d'univers, justement, un peu geek. Parfois, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a pas forcément écouté les années 90, mais qui a beaucoup regardé les séries et feuilletons Disney qui passent en boucle sur le câble et qui essaye de refaire quelque chose qui s'apparente à ça. Il y a des références à l'univers Marvel, un morceau qui s'appelle Darkseid, l'autre New Gods. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui essaye de vous entraîner dans une pop culture, mais qui est très 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 grossière. C'est très sucré et ça me laisse froid, parce que si j'y plonge trop, je suis vraiment dans une indigestion. J'ai eu l'impression vraiment par moment d'entendre quelqu'un qui essaie de singer Björk, qui essaie de prendre la place qu'avait eu Björk à un moment, c'est-à-dire cette place d'une créature qui est capable de faire de la pop, mais qui en fait fait des pieds de nez en disant je fais autre chose. J'ai l'impression qu'elle essaie de prendre cette place là, mais elle n'a pas du tout ni le talent ni l'intelligence de Björk.
Ah oui, moi je la situe pas du tout dans cet endroit, et c'est pour ça que j'apprécie plutôt ce disque aussi. Mais peut-être que je n'ai pas fait assez attention, je ne savais pas de quelle était la petite amie avec qui elle avait des clashs. Enfin bon, voilà, je manque d'informations tout à fait essentielles. J'écoute les disques. C'était tout. Un dernier petit mot, Mathis Serret, je suis obligé de vous presser, puisque j'ai un peu de retard.
Pour revenir sur ce que disait Joseph, il y a cette idée de pop culture, comme ça, un condensé de ce que serait la pop culture qui vient. C'est vrai qu'elle est utilisée notamment sur un jeu vidéo cyberpunk qui s'appelle 2077. Avec un titre qui s'appelle donc 4AEM, qui est sur l'album et qui va se retrouver donc intégralement dans le jeu vidéo. On peut au moins lui donner ce crédit de donner une forme à cette espèce de grand tissage de représentation et d'univers créatif. Que ce soit en effet des images du futur numérique et des images aussi on va dire d'une culture qui n'est pas toujours représentée dans la musique.
Merci pour cette concision concernant l'album de Grimes, Miss Anthropocène, chez 4AD, parce qu'il nous reste encore, dans ces quelques minutes d'émission qui arrivent, à parler de King Krul et de Lirinaldo et Raúl Refré Fernández.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute musique avec Man Alive de King Krul chez XL Recordings. On avait déjà parlé ici même d'Archie Marshall, chanteur, compositeur, musicien anglais, né lui en 94, toujours plus jeune. C'était pour son précédent album, des Who's. 25, bientôt 26. L'auteur, compositeur, interprète, producteur, londonien. On a dit inventeur de la Blue Wave. Bon, cette étiquette va se décoller. C'est son troisième album sous ce pseudonyme. Il en avait sorti un autre sous son vrai nom il y a quelques années. Il y avait aussi l'époque Zoo Kid. Bon, on s'y perd un peu, mais pour l'instant, on parle de King Krul. Il y a deux ans, quand on avait parlé du précédent album, j'avais trouvé que 19 morceaux, 1h17 de musique, c'était peut-être un peu trop. Il y avait un effet compile dans l'écoute de The Who's qui pouvait réjouir ou rebuter. Enfin, moi, je me demandais quel était l'ADN de King Krul. Je ne suis pas sûr d'avoir des réponses, mais en tout cas, ce nouvel album, Man Alive, qui sort lui aussi vendredi prochain, fait à peine 40 minutes. Donc déjà, c'est une avancée pour moi. On écoute un extrait Stoned Again. Vous avez un doute ? Parce que le micro est ouvert, donc si vous voulez... bon, j'ai annoncé un titre, on n'est pas sûr, hein, que ce soit Stoned Again, c'était plutôt...
Supermarché.
Si c'est sûr, il le chante. Parce qu'on l'écoute pas assez, nous dit Alexandre Fougeron dans le casque. Croyons Alexandre Fougeron, en Alexandre Fougeron, nous croirons toujours. Premier tour de table pour un premier avis sur ce nouveau disque de King Krul. Olivier Lam.
Immersif.
Immersif. Mmh. 8 lettres, pas mieux. Joseph Gosne.
Une tentative d'épuisement.
Et Mathilde Serrel.
En deux. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres.
Ouais, Émile Ferris. J'ai une bonne réponse ou pas ?
Vous êtes très fort, Marie-Ange Nardi.
Mais qui est qui ? Alors, Olivier Lam.
Oui, mais
sérieux.
Moi, je suis rentré dans la musique de King Krul par The Use, son album précédent, donc qui était très long et qui était très immersif, qui était pour moi un disque vraiment un disque de paysagiste. Et là, apparemment, l'album est plus ramassé. Ce serait peut-être un retour à plus de guitare, plus de chansons, et en fait, pas du tout. C'est vraiment un travail de peintre, mais qui travaille avec la matière, enfin qui travaille avec des gros aplats de peinture à l'huile, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Parce qu'on voit vraiment les paysages, mais on voit aussi le bitume jusqu'à l'échelle microscopique ou presque. Et ça voit évidemment. Et je trouve que c'est un très beau disque de producteur. On a l'impression que il a réussi à, il a compris quelque chose du dub anglais, du dub industriel, du, presque du dubstep de Kevin Martin, qui est un grand monsieur de la musique, enfin du dub anglais, qui fait notamment The Bug. Et il arrive à ramasser ça dans des choses, comment dire, à faire un lien entre l'univers qu'il construit par le son et par la mélodie et la thématique. C'est quasiment que des balades, que des errances, qui sont en prise directe avec ce qu'il vit. Et des fois, moi je l'ai interviewé il y a peu, et on a l'impression qu'il a presque oublié ce qu'il voulait dire avec telle ou telle métaphore. Et c'est un excellent parolier, vraiment. Il a un truc, il a une plume vraiment extrêmement talentueuse. Et cette faculté irréelle a passé directement en une seconde des Clash, Damned à Chet Baker, et a ramassé les deux. Enfin, c'est moi je préfère les morceaux les plus, on va dire, les moins précis, les plus éthérés, les plus délayés, notamment le tout dernier morceau de l'album, qui est absolument incroyable, où il peut habiter vraiment ses univers plutôt que forcément être obligé de faire d'agréger tout ça en refrain et en montée et en hurlement. Non, c'est vraiment un type incroyablement doué, et c'est je pense que c'est son meilleur disque à ce jour, donc c'est déjà pas mal.
Là encore, le dernier morceau était lui aussi d'une durée qui nous aurait empêché de parler davantage, d'autant que notre temps est réduit. Joseph Gosne.
Je suis absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier Lam. Je voudrais simplement noter, moi, je l'ai, la première fois que je l'ai entendu ou découvert, c'était à l'époque où il s'appelait encore The Kid, je crois.
The Kid, ouais.
The Kid, où il jouait quasiment tout seul avec une casquette et une guitare. Mm-hmm. Et déjà, c'était très, très impressionnant. Ne serait-ce que par sa voix.
Il devait avoir 19 ou 20 ans, quoi.
Il avait 20 ans, c'était, il avait 18 ans, je crois.
Il gringuait les roues. Son père. L'école des fans.
Exactement. Il jouait au billard le soir après le concert. Enfin, c'était vraiment un gamin. Mais il y avait déjà cette voix qui faisait penser à Nick Cave, qui faisait penser à d'autres voix comme ça, très gutturales. Et le chemin parcouru est assez surprenant. Alors évidemment, il y a dans le disque tout ce que Olivier a mentionné, c'est-à-dire cette façon de reprendre le dub, de reprendre toutes les musiques anglaises. C'est très très anglais, ça. Il faut vraiment être immergé dans cette musique-là pour vraiment apprécier tous les détails. On peut évidemment apprécier les chansons et les morceaux pour eux-mêmes. Et il y a surtout, à mon sens, quelque chose d'assez qui m'a vraiment très touché. C'est la manière, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, la manière dont il épuise les sentiments. Le disque est vraiment rempli de colère au début, de choses très fortes, très très ardues, très comment dire, très très en colère, et on a l'impression qu'il les efface petit à petit, qu'il les oublie, et ça va vers des choses beaucoup plus pas sereines, mais un peu plus aériennes, peut-être un peu plus éthérées. Et on le remarque vraiment si on laisse le disque en boucle, et quand vous passez du dernier morceau et que le premier reprend, vous prenez une vraie tornade dans la gueule. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Mathilde Serrel sur ce nouvel album de King Cruel Man Alive.
Voilà, Émile Ferry, je peux juste préciser, parce qu'on peut quand même donner la référence. Donc, c'est ce roman graphique qu'on a découvert, qui avait eu un grand prix à Angoulême. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres où on a une réunion merveilleuse de Dürer, de Hervé Picard et de Marie Shelley dans un dessin au stylo bille, et où on découvre qu'évidemment, les gens les plus dangereux sont les gens normaux et les plus rassurants sont les frics. Moi, je trouve qu'il y a cette espèce de proposition de monstrueuse dans le disque de King Cruel, monstrueuse parce que je pense qu'en termes de format, on déborde totalement tout ce qu'on pourrait avoir étiqueté, catégorisé, normé dans le champ de l'industrie musicale. C'est monstrueux parce qu'il y a cette fureur, il y a cette colère dont parlait Joseph Gosne à l'instant. Donc en effet, sur Cellular, Supermarché, Stone Again, les titres inauguraux du disque. Et puis cette fureur de liberté, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même des titres, il y a des histoires qui se commencent, et puis il prend une tangente, il s'ouvre la retranscription d'une sorte de message audio repassé par une voix robotisée. Il va trouer un petit peu sa toile, il va laisser des espaces. Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'écouter un roman graphique, et je trouve qu'en plus, la narration est très fine, parce qu'il y a des personnages à la troisième personne, dont j'imagine que c'est un peu lui transposé dans une autre réalité, et aussi un titre que je trouve vraiment, enfin, intéressant. C'est presque un roman, en fait, ce disco. Je pense qu'il faut vraiment l'aborder comme ça. Perfecto miserable. C'est les phrases qu'un garçon a envie de dire quand il est amoureux. Et il y a ce troisième œil, quoi. C'est le troisième œil qui lui renvoie ce truc vraiment honteux, ce truc. Mmh. Mais t'es un génial, en fait. Et puis t'as des formules éculées, épuisées. Il va un peu tordre cette voix. Il va se regarder et se juger. En fait, et je pense que c'est une, voilà, c'est pour moi, c'est un King Cole qui se regarde dans le miroir et qui écrit une sorte de, voilà, de roman graphique de sa vie. Et il y a Airport, Antenatal Airport, qui est une sorte de musique de, on pourrait imaginer des silhouettes qui passent dans les aéroports d'Israël ou de JFK. Et là, il saisit un peu cette espèce de haute solitude, quoi. Mmh. Pour reprendre un titre d'un film de Philippe Garrel, c'est vraiment les hautes solitudes et ramassées dans un titre avec des textures qui sont parfois proches, je pense, de l'univers de la fiction radio ou du podcast. Il y a ce travail-là, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait, en plus de toute cette musique anglaise dont on parlait, écouté aussi ce genre de format, parce que ça se ressent dans la narration.
Allez, on conclut avec Olivier Lame à nouveau, qui a droit à un deuxième tour.
Non mais c'est juste ahurissant de maturité. Enfin, il a 26 ans, il fait son premier album à 18 ans. Et surtout, moi, j'étais sûr qu'il allait faire des mauvais disques, des disques fades. J'étais sûr qu'il allait faire. Je veux pas comparer avec des. J'étais sûr qu'il ferait du mauvais trip hop, qu'il fasse du James Blake ou ce genre de choses. Il a et plus il avance, plus il vieillit, plus ses disques sont précis et radicaux et oui, et proche de l'abîme, quoi. Il y a vraiment quelque chose de.
Voilà. Voilà, tout est dit sur Man Alive de King Cruel chez Excel Recordings. Il sera en concert à Bruxelles le 3 mars, à l'Olympia à Paris le 4 mars.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Et le dernier album sur nos platines ce soir, c'est Names of North End Women de Lee Ranaldo et Raoul Refré Fernandez chez Mute. C'est la rencontre de l'ancien guitariste de Sonic Youth et d'un songwriter barcelonais, une collaboration au long cours pour un album aux paroles écrites de façon cut-up en collaboration avec l'écrivain de science-fiction américain Jonathan Lethem. À titre d'exemple, on va écouter Words Out of the Haze.
Listening to your talk, words out of the haze, tearing me apart, ending of these days. Listening to your talk, words out of the haze.
The sky is closing. to the sea.
Premier tour de table rapide de cet album de Lee Ranaldo et Raoul Refré Fernandez, Joseph Gosn.
Inégal, je dirais, mais joli.
Mathilde Serrel.
L'expérimental est une couleur chaude.
Vous êtes en veine BD, vous, ce soir. Hein.
Ouais, je sais pas.
Olivier Lame.
En veine titre.
Non, c'est pas mal, mais ça me file le bourdon, ce genre de disque.
Vous expliquerez pourquoi dans un instant, car c'est à Joseph Gosn de commencer cette dispute. Sur ce disque Names of North and Woman.
Je dirais, j'ai dit inégal parce que je trouve que c'est un disque qui a plusieurs facettes, qui sont pas toutes aussi bien les unes que les autres. Je trouve que c'est un disque qui ressemble, je sais pas si vous écoutez de la musique improvisée, dans la musique improvisée, il y a surtout, il y a des moments de recherche qui parfois aboutissent et parfois n'aboutissent pas. Là, j'ai l'impression que le disque est construit comme ça. C'est-à-dire, c'est un disque qui cherche beaucoup. Même à l'intérieur d'un seul morceau, ça cherche beaucoup. Je trouve qu'il est assez réussi, notamment dans un morceau comme celui qu'on a entendu, là où il y a un semblant de mélodie, où Lee Ranaldo se laisse aller. Mais je trouve surtout qu'il va vers quelque chose, sans forcément toujours trouver, mais qu'il aboutit quand même au dernier morceau que je trouve, là, pour le coup, un vrai chef-d'œuvre. J'adore ce morceau, j'arrête pas de l'écouter. Je trouve qu'il est très beau, il est planant, il a quelque chose d'assez tenu. Ensuite, le problème d'un disque de Lee Ranaldo, c'est que c'est un disque de Lee Ranaldo qu'il soit fait avec 10 personnes. Il y a toujours des fantômes derrière. Et les fantômes, c'est à la fois les fantômes, évidemment, de Sonic Youth, des morceaux qu'il a fait à l'intérieur de Sonic Youth, de la façon dont il avait une dynamique entre lui et les gens de Sonic Youth, mais aussi de ses propres disques à lui des années 80-90, les disques solo, il en a fait quelques-uns qui étaient très beaux, qui étaient assez extrêmes et dans lesquels il cherchait des choses qui sont peut-être un peu proches de ce qui se passe là, mais qui étaient quand même un peu plus abrasives, un peu plus intéressantes pour l'époque. Aujourd'hui, on a écouté beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses et il y a beaucoup de gens qui ont repris les traces de Lee Ranaldo pour se dire que cet album-là est vraiment un très très bon disque. Il y a, à mon sens, il y a deux, trois très beaux morceaux, mais l'album en tant que tel est loin d'être un grand disque.
Mathilde Serrel, à présent, sur ce disque.
Mais moi, je pense que ça fait du bien parfois de sortir de ces obsessions. En effet, ces fantômes d'une avant-garde électrifiée, Sonic Youssiane, on a l'impression que d'avoir été en ping-pong avec ce producteur barcelonais, ça lui a permis à Lee Ranaldo, je trouve, de pas tomber dans des ornières obsessionnelles. J'ai l'impression que ça ouvre un petit peu la boîte, ça ouvre un petit peu le champ des expériences. En effet, c'est pas totalement achevé, mais il y a un travail de ping-pong, je trouve, entre la guitare de Lee Ranaldo et la production de Raoul Réfré, qui je trouve, voilà, on les entend en effet au travail et on a l'impression d'avoir voilà des éléments qui se répondent. Alors ça donne pas forcément toujours un tout, ça atterrit pas toujours sur des pattes harmonieuses, mais au moins ça permet, je trouve, un petit peu comme voilà, c'est un principe de dialogue ou un principe de maïeutique, d'accoucher d'un truc différent du certainement disque expérimental crypto saturé etc. qu'il aurait pu faire. Et je trouve que c'est ça, on va dire que ça ouvre un embranchement et que ça a cette qualité de travail et de voilà, de libération des obsessions de terrain qu'on a trop labouré. Donc pour ça c'est intéressant, mais alors après musicalement, est-ce que vraiment on a envie de le réécouter? Non, une fois qu'on a découvert l'objet d'expérience, voilà, il y a une piste et puis c'est tout.
Et puis ça fout le bourdon aussi à Olivier Lam. Et ça, c'est quand même une raison quand même de ne pas mettre une très bonne note à ce disque.
Moi, je ne trouve pas que ce soit un disque expérimental. Je trouve que c'est un disque très, très travaillé, enfin, extrêmement minutieux.
Bah, expérimental, c'est pas l'opposé de travailler.
Non, pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un disque qui essaye beaucoup de choses. C'est un disque qui
si ça, c'est très construit. Moi, cette alternance de plages courtes, plages longues.
Non, et par ailleurs, moi, je trouve pas que Lee Ranaldo soit un musicien particulièrement obsessionnel. C'est un musicien qui est plutôt dilettante, qui fait plein de choses. C'est une espèce d'avant-garde, un peu chic, un peu poète. Moi, je l'aime beaucoup. C'était le George Harrison de Sonic Youth. C'était le préféré de tout le monde. C'était celui qui écrivait les tubes et personne les entendait.
Comme vous y allez.
Non, mais il y avait un peu ça. Enfin,
on peut débattre. cette assertion.
Mais il y a
mienne.
C'est un disque.
George Harrison de Sonic Youth.
Celui que tout le monde préférait.
C'est votre théorie.
Les tubes, c'est pas certains des tubes.
On est d'accord sur aucun segment de votre phrase.
Les morceaux émouvants, on va dire.
Parce que My Guitar Gently.
Mais pour moi, l'œuvre de Lee Ranaldo, elle touche toujours, mais elle est indispensable vraiment à personne, même pas à lui-même. Et surtout, ce disque-là, moi, je vais vous expliquer pourquoi j'utilisais le mot, cafardeux, c'est que.
Bon.
C'est pour moi, c'est absolument exemplaire de la deuxième vie des musiciens expérimentaux, justement radicaux, comme Art Linzey ou même David Byrne, par exemple. C'est-à-dire que c'est une musique qui est agréable, qui est pleine de petites trouvailles, mais qui est totalement inoffensive. Et pour moi, c'est expérimental, c'est un expérimental un peu gentrifié et finalement assez mièvre dans les mélodies. Le morceau qu'on vient d'écouter, finalement, ça pourrait être plein de choses vraiment qu'on n'aime pas beaucoup. Et moi, je vois pas vraiment non plus le travail de Réfré là-dedans, qui est un musicien passionnant, qui a fait des disques sur un label qu'on aime. Je sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Aquarella, qui était sur lequel il y avait un musicien moi que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Señor Chinaro, et qui ensuite qui depuis quelques années est devenu un peu le producteur accoucheur de flamenco à la mode moderniste. Rocío Márquez, Silvia Pérez-Cruz et surtout Rosella, dont il avait co-signé le premier album solo qui s'appelait Los Angeles, qui est vraiment une merveille. Et j'imagine que c'est lui qui fait toutes ces petites bidouilles électroniques. Mais je trouve quand même que ça accouche quand même de morceaux qui sont pas loin d'une sorte de variété chic internationale, un peu comme on faisait Sakamoto au milieu des années 80. Et je vois pas vraiment d'âme là-dedans. Et c'est ça qui me désole, c'est que c'est un musicien auquel on est beaucoup attaché. Et moi, ce disque-là, il me fout le cafard.
Vous n'en sauvez aucun morceau?
Je sauve des mélodies, j'aime bien le premier morceau, avec c'est ce spoken word qui devient cadencé et mélodique. Le morceau titre, qui on dirait un peu du Paul Simon, bon,
ouais.
Tout ça est quand même pas très nécessaire. Enfin, voilà, je ne vois pas la nécessité dans ce disque.
Bon, Joseph Ghost ou non, Mathilde, c'est un dernier mot rapidement.
Non, mais c'est un disque dont on ne sait pas si c'est le début de quelque chose d'intéressant ou la fin d'une fausse bonne idée.
Joseph Ghost,
il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on n'entend pas tellement la guitare. On se dit que c'est pas un disque de guitare, alors qu'on
presque une autre citation de Philippe Garrel. J'entends plus la guitare.
J'ai essayé, j'ai tenté.
Oui, je vois. C'est beau. Une thématique de titre.
Mais c'est un disque où il y a un peu de marimba, où il y a des instruments ça, même s'ils sont pas très très bien exploités. Mais en tout cas, ça augure de choses. Et après pour ce qui est de l'expérimentation gentrifiée, je pense qu'il y a beaucoup d'autres musiciens plus jeunes que lui qui
répondent à ce critère.
De toute façon, beaucoup plus mièvre.
Ah, on est entièrement d'accord. Mais c'est un autre débat.
C'est un autre débat que nous n'aurons pas ce soir, il est 19h56, et que nous parlions donc de Names of North End Women, de Lil Ronaldo et Raoul Refré Fernandez chez Mute Records. Ils seront en concert le 9 avril au 104 à Paris, ils seront à Clermont-Ferrand le 10 avril, et à Nantes le 11 avril. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Et c'est pourquoi Lola Schiller nous a rejoint, comme chaque soir, d'abord pour nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse, Lola.
Quel est le point commun musical que Lewis Trondheim partage avec Johan Svaar? Eh bien, ils jouent tous les deux du ukulélé.
Ah, ça, c'est une belle question. Bravo, Lola. On va voir si celle de ce soir est aussi due. On va faire gagner des hors-série Point Pop James Bond de la revue Le Point. On trouve dans les kiosques, évidemment. Quelle est la question?
Non, elle est plus facile. La chanson du générique du prochain James Bond a été révélée vendredi dernier. Qui est son interprète?
Un peu plus facile. Nettement plus facile. Votre réponse, si vous l'avez, nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Sophie-Catherine Gallet, Boris Pino et Lola Schiller. Prise de son ce soir, Sylvain Latu. Réalisation, Alexandre Fougeron. Toutes les informations sur l'émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Site sur lequel on peut aussi réécouter ou s'abonner au podcast des émissions. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai en compagnie de Frédéric Bonnet, Sarah Hellermeyer et Anna Alpija pour parler avec elle et lui de l'exposition de Lars Fredriksson au Mamak à Nice et puis de celle d'Eugène Frey, les décors lumineux d'Eugène Frey au nouveau musée national de Monaco. Frédéric Bonnet nous fera part de son coup de cœur pour Sol Calero, c'est une exposition à voir à la Villa Arson à Nice. Et puis Lucille Como sera avec nous pour ouvrir son journal de la dispute à la page Art en grève.